Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Point d'orgue, votre rendez-vous de musique sacrée. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles du répertoire. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur l'une des grandes fêtes du calendrier chrétien, la Pentecôte. Alors la Pentecôte est sans doute l'une des fêtes les plus mystérieuses du christianisme. Elle intervient 50 jours après Pâques et elle célèbre la descente de l'Esprit-Saint sur les apôtres réunis au Cénacle. Alors le récit est rapporté dans les Actes des apôtres et c'est un récit très imagé, très saisissant. Imaginez bien, c'est presque théâtral, un vent violent se lève soudainement et des langues de feu apparaissent au-dessus des disciples et chacun se met à ce moment-là à parler dans des langues différentes. Alors le feu, le souffle, la lumière, le mystère et la parole transfigurée, tout dans cet épisode biblique semble appeler la musique. Et bien entendu, depuis des siècles, les compositeurs ont tenté de traduire ce qui précisément échappe au mot la présence invisible de l'esprit. Alors la question se pose, comment représenter musicalement le souffle? Comment évoquer le feu sans tomber dans une forme d'illustration qui serait un petit peu naïve? Comment faire entendre ce qui relève du spirituel, de l'indicible et de l'inspiration intérieure? Et la musique sacrée occidentale s'est en fait beaucoup construite autour de cette quête. Alors dans les grandes polyphonies médiévales, l'Esprit-Saint devient lumière harmonique. Chez les compositeurs baroques, elle se transforme parfois en élan théâtral ou en souffle orchestral. Et au XXe siècle, certains créateurs comme Olivier Messiaen, dont on va entendre une page, iront jusqu'à faire de la musique une véritable expérience mystique. Et le mot même d'inspiration est d'ailleurs profondément lié à cette idée de souffler. Inspirer, c'est recevoir en soi. Mais dans la tradition chrétienne, l'artiste est souvent considéré comme celui qui accueille quelque chose qui le dépasse. Alors la Pentecôte, je pense qu'on peut le dire même si c'est pas forcément vrai, mais moi j'aime bien le penser, c'est d'une certaine manière aussi un peu la fête des artistes, c'est la fête du feu intérieur, et peut-être de l'écoute attentive de celui qui va pouvoir nous inspirer. Alors aujourd'hui, nous allons traverser plusieurs siècles de musique sacrée pour écouter comment les compositeurs ont donné une voix à l'esprit, et nous allons commencer avec l'un des plus grands mystiques de la musique du XXe siècle, j'ai nommé Olivier Messiaen. Alors Olivier Messiaen, j'en parle assez régulièrement, mais quand même il est bon d'avoir quelques rappels. Il occupe une place tout à fait singulière dans l'histoire de la musique. Il est né en 1908 à Avignon, dans une famille d'intellectuels. Sa mère était la poétesse Cécile Sauvage, et son père le traducteur Pierre Messiaen. Et il a très vite montré, très tôt, des dons extraordinaires. Peut-être les dons de l'esprit, qui sait. C'était un enfant solitaire qui était fasciné par les couleurs, les contes et la religion. Et il entre très jeune au Conservatoire de Paris, où il remporte quasiment tous les premiers prix possibles, au hasard et un peu pêle-mêle, harmonie, fugue, accompagnement, histoire de la musique, improvisation et composition, rien que ça. Mais ce qui fait de Messiaen un compositeur totalement à part, ce n'est pas seulement sa technique phénoménale, c'est son univers totalement à part dans le monde de la musique. Alors il faut savoir que Messiaen était quand même profondément catholique. Il disait lui-même que la foi était la raison d'être de son œuvre. Alors ça, on l'entend dans toute son œuvre, qu'elle soit pour orgue ou ailleurs d'ailleurs. Hein. Et toute sa musique cherche à rendre audible le mystère divin. Pendant plus de 60 ans, il sera organiste titulaire de l'église de la Sainte Trinité à Paris, une église fabuleuse, et chaque dimanche, il improvise devant les fidèles des architectures sonores absolument inédites. D'ailleurs, pour la petite anecdote, sachez que la messe de midi, en fait, il animait plusieurs messes le dimanche, et il y avait une de ces messes, il avait réussi à faire un pacte avec le curé de l'époque, en lui disant qu'il pouvait être un peu en roue libre, et rapidement on appelait cette messe la messe des fous, parce que eh bien, le maître laissait libre cours à toute son imagination. Il faut également savoir que Messiaen était fasciné par les oiseaux, et ça a son importance dans la partition que nous allons écouter, parce que en fait il a écrit toute une œuvre autour de la Pentecôte, et l'une de ses œuvres s'appelle « Les oiseaux et les sources », mais ça je vous invite à le découvrir à part, parce qu'on va pas parler de ce morceau-là aujourd'hui. Alors il faut savoir qu'il parcourait la campagne avec des carnets pour noter le chant des oiseaux, avec une précision presque scientifique, et pour lui, il le disait et l'assumait bien volontiers, les oiseaux étaient les plus grands musiciens de la création. Et puis, il avait une autre particularité absolument fascinante, et qui là est très importante avec ce que l'on va écouter, c'est la synesthésie. C'est-à-dire que Messiaen voyait littéralement des couleurs lorsqu'il entendait certaines harmonies. Des accords pouvaient provoquer chez lui des visions très précises, des bleus profonds, des ors éclatants, des rouges orangés traversés de violet, et en fait, chez lui, la musique devenait couleur. Et c'est avec cette perception intérieure que l'on peut voir effectivement qu'il y a cette porosité entre la couleur et la musique dans son œuvre « Les langues de feu » qui sont extraits de sa messe de la Pentecôte, composée en 1950. Alors cette messe pour orgue, c'est l'un des grands sommets du répertoire organistique du XXe siècle. Chaque mouvement évoque un aspect du mystère de la Pentecôte. Alors dans « Les langues de feu », Messiaen cherche à traduire musicalement l'apparition des flammes de l'Esprit-Saint. Mais comme je vous l'avais dit un petit peu en introduction, il ne s'agit pas d'un feu réaliste. Nous sommes ici plutôt dans une matière sonore très mystérieuse, presque surnaturelle. Et l'écriture de Messiaen repose sur des harmonies très particulières, construites autour de ces fameux modes à transposition limitée qui donnent cette impression de suspension du temps. Et en fait, quand on écoute cette œuvre, on a parfois le sentiment que la musique flotte entre plusieurs mondes. L'orgue lui-même devient une sorte d'immense vitrail sonore, et les registrations sont très particulières avec des fulgurances rythmiques, des contrastes soudains de lumière qui évoquent des braises mouvantes et des étincelles mystiques. Mais si on parlait souvent d'ailleurs des couleurs des feux follets pour certaines de ces harmonies, et c'est vraiment ce qu'on entend ici, des éclats qui apparaissent, puis disparaissent, presque comme des visions. Et il y a également chez lui un rapport très particulier au temps. Il faut savoir que quand vous écoutez de la musique de Messiaen, parfois ça a l'air d'être un gentil bazar, mais en fait il faut savoir que c'est extrêmement calculé, extrêmement organisé. Et en fait la musique n'avance pas comme dans un récit traditionnel, elle semble plutôt contempler. La musique contemple et se laisse contempler. Et c'est là où chez Messiaen il y a un mystère qui n'est finalement jamais expliqué mais qui est rendu tout à fait présent. Alors je vous propose d'écouter maintenant sans plus attendre l'entrée de la messe de Pentecôte d'Olivier Messiaen, Les langues de feu, ici interprétée par le grand Olivier Latry sur son orgue de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Thank you. Alors, comme d'habitude avec Olivier Messiaen, eh bien, ça ne laisse pas indifférent. Vous vous rendez bien compte qu'entendre ça dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans l'église de la Trinité, ben, naturellement, c'est pour ça qu'on appelait ça la messe des fous, mais une sorte de folie géniale, moi je le pense sincèrement. Alors, si on peut ergoter évidemment sur l'esthétique et la beauté de la chose, on ne peut pas quand même laisser de côté la part géniale de Messiaen de nous raconter une histoire extrêmement visuelle. Et surtout avec l'orgue, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. L'orgue est pour beaucoup un instrument extrêmement savant, mais il y a avec Olivier Messiaen quelque chose de profondément matériel. C'est pour ça que je vous parlais de la synesthésie qui donne vraiment cet aspect très matériel, vraiment presque palpable de la musique. Et alors avec cette vision flamboyante et presque cosmique de l'Esprit Saint chez Messiaen, maintenant on va prendre le problème presque à rebours en revenant plusieurs siècles en arrière avec l'Angleterre médiévale, où nous allons retrouver une musique où le souffle de la Pentecôte s'exprime, vous allez l'entendre très différemment, non plus dans la couleur orchestrale et les harmonies éclatantes du XXe siècle, mais dans la pureté de la ligne vocale et l'élan de la polyphonie naissante. Alors on va écouter, c'est un chant d'ailleurs qui combine deux grands chants, le Veni Sancte Spiritus et le Veni Creator du grand John Dunstable. Alors c'est une figure capitale de l'histoire de la musique occidentale et pourtant, paradoxalement, il reste encore relativement méconnu du grand public. Il est né en 1390 et mort en 1453. Et en fait, il appartient à cette période charnière où l'Europe musicale quitte progressivement le Moyen-Âge pour rentrer dans la Renaissance, et vous allez l'entendre dans la musique. Et finalement, sur cet homme, on sait peu de choses précises sur sa vie. Il aurait travaillé au service du duc de Beckford, qui est le frère du roi Henri V, et il aurait voyagé en France durant la guerre de Cent Ans. Mais ce qui est certain, c'est l'influence énorme qu'il a exercée sur les compositeurs du continent. Les musiciens bourguignons et franco-flamands, qui étaient quand même extrêmement célèbres à l'époque, admiraient profondément son style. Le poète Martin Lefranc parle même chez lui de la contenance anglaise, cette manière nouvelle d'écrire la polyphonie avec des accords plus consonants, plus lumineux, voire même plus suaves. Alors avant Dunstable, la musique médiévale utilisait souvent des intervalles un petit peu plus rugueux. J'avais eu l'occasion de vous en parler lorsqu'on avait évoqué l'école de Notre-Dame. Et en fait, avec ce compositeur, apparaît une sonorité plus douce, presque rayonnante. Et c'est cette lumière harmonique qui convient admirablement au texte de la Pentecôte. Alors nous allons entendre deux hymnes en un, deux hymnes en un, le Veni Sancte Spiritus et le Veni Creator Spiritus, qui eux aussi occupent une place centrale dans la liturgie. Alors, le Veni Creator, lui, remonte probablement au 9e siècle, il invoque directement l'Esprit Créateur, viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, et le Veni Sancte Spiritus, quant à lui, est souvent appelé la séquence d'or, c'est l'un des textes les plus poétiques de toute la liturgie latine, il décrit l'Esprit comme une lumière, un consolateur, une source vive, et bien entendu, Dunstable a construit sa polyphonie à partir de ces deux morceaux, et donc à partir du chant grégorien. Et c'est essentiel, ça, pour comprendre cette musique. Le grégorien, il faut le savoir, c'est pas seulement une mélodie ancienne sur laquelle on ajoute des voix. Ici, le compositeur va s'en servir comme une forme de colonne vertébrale spirituelle. Vous avez bien entendu une ligne grégorienne qui est suggérée. Alors parfois, elle est plus que suggérée, hein, elle est clairement démonstrative. Et donc cette ligne porte le texte sacré, tandis que les autres voix viennent l'envelopper et presque l'illuminer comme une lumière qui traverse un vitrail. On retourne un petit peu sur le même exercice que Messiaen. Et donc dans cette musique, vous allez l'entendre un petit peu comme ça se faisait avec le grégorien, rien n'est spectaculaire, mais tout est équilibre. Vous avez les voix qui semblent respirer tout ensemble, et la polyphonie crée ici une impression de comment ça, de suspension, mais en même temps d'immense sophistication. Vous avez les voix qui entrent successivement, des résonances harmoniques, des consonances qui donnent une sensation d'espace sonore très particulière, et donc on comprend pourquoi les contemporains parlaient de musique angélique. Il y a donc un lien profond entre cette esthétique et la symbolique de la Pentecôte, car l'Esprit Saint est précisément dans ce qui unit sans confondre. Et c'est pour ça qu'avec la Pentecôte, chacun entend les apôtres dans sa propre langue. Et ici, c'est merveilleusement illustré. Alors je vous invite à découvrir sans plus attendre cette musique extraordinaire, là aussi inhabituelle à nos oreilles. Vous allez entendre ces fameuses quintes à vide, ces altérations accidentelles qui viennent parfois titiller l'oreille. C'est un petit peu comme si on se demandait finalement d'où viennent ces fameuses langues de feu. Je vous laisse donc découvrir cette extraordinaire Veni Sancte Spiritus et ce Veni Creator de John Dunstable, ici interprété par l'ensemble Pomerium.
Thank you.
L'extraordinaire musique de John Dunstable, une musique extraordinaire qu'on n'a pas l'habitude d'entendre mais qui mérite d'être pleinement écoutée. Et nous touchons maintenant au dernier morceau du jour. Alors il ne s'agit pas d'un morceau du grand répertoire mais d'une mise en musique du psaume 103 composé par Emmanuel Pellapra, avec qui j'ai la chance et le bonheur de travailler. Il est organiste de l'église Notre-Dame du Thor à Toulouse et également à Saint-Cernin, et il a eu l'idée de mettre en musique donc ce fameux psaume 103 en pensant à tout ce dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire tout l'aspect un petit peu mystérieux, mais également les différentes langues. Donc, dans son interprétation du psaume, vous allez entendre non seulement les thèmes grégoriens du Veni Sancte et du Veni Creator, mais en plus, vous allez entendre différentes langues qui vont se mêler les unes aux autres, sur les différents refrains, et qui vont donner cet aspect presque de langage qui sort, mais en même temps que tout le monde comprend, et qui donne là aussi une interprétation absolument phénoménale. Alors je vous laisse découvrir la mise en musique de ce psaume extraordinaire. C'est votre serviteur qui dirigeait la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Cernin, et c'est l'organiste n'est autre que le compositeur lui-même. Et voilà pour cette magnifique vision du psaume 103, ici vision de Emmanuel Pellapra qui s'inscrit donc dans la lignée de ces fabuleux musiciens dont je vous ai parlé précédemment. Voilà pour ces visions autour de l'esprit de Pentecôte. J'espère que vous avez apprécié ce voyage. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Point d'Orgue. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.